Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être venu accueillir aujourd'hui Olivier Poivre d'Arvor, qui nous propose pour cette rentrée littéraire l'amour à trois. Donc trois personnages et une histoire apparemment simple, si on en croit la quatrième de couverture. Léo part à la recherche de son ami d'adolescence, Frédéric, pour lui annoncer la mort du grand amour qu'ils ont partagé. Hélène, qui fut il y a 30 ans leur professeur de philosophie et leur initiatrice érotique. Mais en fait, c'est pas du tout aussi simple que ça. Le récit ne se déroule pas aussi facilement parce que le narrateur vient d'être victime d'un accident. Il peine à rassembler ses idées et à démarrer son récit entre, on peut le dire, AVC, jet lag, gueule de bois. Au départ, c'est compliqué. Mais vous êtes journaliste, vous êtes aussi écrivain et vous nous avez donné d'entrée de jeu toutes les clés. L'amour à trois, c'est d'abord un roman sur la mémoire. D'abord Proust en exergue, car aux troubles de la mémoire sont liées les intermittences du cœur. Et puis en incipit, ce diagnostic très technique, l'amnésie entérograde, a ceci de bon qu'elle économise bien des tracas. Alors tracas, ça va, mais amnésie entérograde, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
Bon, je ne vous la souhaite pas d'abord. D'abord, je ne souhaite à personne d'avoir des accidents cérébro-vasculaires, mais... En même temps, la mémoire, c'est quand même c'est un grand sujet d'abord parce qu'on la perd, parce qu'on se la construit et parce qu'aujourd'hui, en effet, il y a un tas de recherches qui permettent de savoir à peu près où va l'être humain, mais que la mémoire résiste, le fonctionnement du cerveau est encore très résistant. Et donc, moi, j'avais eu envie de raconter en effet l'histoire de quelqu'un qui non seulement a perdu la mémoire suite à un accident, mais ne peut plus en fabriquer de nouvelles. Et c'est ce qu'on appelle l'amnésie entérograde, en fait, qui fait que, par exemple, je ne me souviendrai pas de ce que je vous ai dit il y a une minute. Ce qui a un mérite, ça prend beaucoup de défauts d'abord, mais c'est un mérite, c'est que vous êtes assez léger. Mais par exemple, donc, des cas d'amnésie entérograde, quand vous lisez un livre, vous lisez un premier chapitre, un deuxième, puis vous arrêtez, vous reprenez ça le soir ou le lendemain, ben là, non, parce que vous ne souvenez pas de ce que vous avez lu donc, très récemment. Et donc ce personnage, en effet, non seulement a perdu l'essentiel de son disque dur, donc il lui manque plein de choses en tout cas, il n'a pas perdu ce qu'on appelle la mémoire de travail. La mémoire de travail consiste tout simplement à savoir que c'est un verre qu'il faut mettre, c'est des réflexes qui sont construits, qui fait qu'il faut porter le verre à la bouche, tout ça est acquis depuis longtemps et tout ça est présent. De même notre mémoire qui consiste par exemple à se souvenir, on vous dit un numéro de téléphone, vous le répétez, vous pouvez le faire tout de suite. Mais mon personnage, lui, ne peut pas aller au-delà de 24 heures dans ses souvenirs et il se retrouve en effet quelque part en Guyane, à Cayenne, sans très bien savoir pourquoi il est là.
Alors c'est votre personnage, mais c'est aussi le narrateur. Donc l'ennui, c'est que c'est lui qui dit « je » et il ne nous dit que ce qu'il sait. Et effectivement, au début... Il nage un peu dans la confusion. Donc, c'est donc un roman sur la mémoire, sur la perte de la mémoire, sur les oublis accidentels ou volontaires. Et ce narrateur, il est diplomate, comme vous, Olivier Poivre d'Arvor. Il vient d'être nommé archiviste du Quai d'Orsay. Une mission un peu à contre-emploi parce que lui, il dit être intéressé par les lendemains, les promesses, le mouvement. Donc il a ce cri du cœur, mais ce souvenir, conserver, mémoriser, microfilmage, numérisation des documents, autant de sujets dont je me fichais éperdument, mais qui en plus me donnent le bourdon. C'est-à-dire qu'au départ, on a l'impression qu'il s'en fiche un petit peu d'avoir les légers, comme vous le disiez. Pourtant, même si oublier, c'est bien pratique, même si ça lui évite des tracas et malgré les séquelles de l'AVC qui l'empêchent de toute façon de se rappeler le passé, Léo Socrates, donc c'est son nom, le personnage s'appelle Léo Socrates, il plante là un colloque auquel il est venu assister à Cayenne sur le thème « Le passé, sujet d'avenir ». Il est au milieu de tout un tas d'archivistes. Il plante là ce colloque, il plante là sa conférence et il part s'enfoncer au cœur de la forêt guyanaise pour retrouver Frédéric et lui annoncer la mort de celle qu'ils ont aimée tous les deux pendant l'été 76. Alors, voilà, l'amour à trois, il y a trois personnages, Hélène comme point de départ, cette prof de philo, Frédéric comme point d'arrivée, mais il y en a d'autres au fil du récit et surtout Guy, le chauffeur de taxi qu'il aile comme ça par hasard, Guy, un gars comme les autres, mais qui finalement s'appelle Guy Bienvenu, et qui devient indispensable à votre personnage. Il y a Désirée, une femme croisée, et Désirée. Donc je voulais savoir comment vous avez choisi le nom de vos personnages.
D'abord en allant sur place, c'est-à-dire que la Guyane, c'est un territoire que je trouve très, très passionnant. Alors, pourquoi le passé, sujet d'avenir ? Parce qu'évidemment, ces territoires, les Dom-Tom sont très soucieux de leur identité. Et leur histoire ne se résume pas, évidemment, à la simple présence française. Et il y a donc une revendication d'histoire forte, y compris amérindienne, très importante. Et pour ceux qui connaissent la Guyane, c'est passionnant. C'est un creuset absolument incroyable de communautés, creuset de religions aussi. Et on parle beaucoup, en effet, des sujets des migrants aujourd'hui. Mais la Guyane, ça n'est que ça. Une frontière extrêmement perméable entre le Brésil et puis à côté le Guyana, le fleuve, le Suriname. Et donc, cette population extrêmement mélangée aujourd'hui, c'est un territoire intéressant pour raconter ce genre d'histoire, parce que quand on va là-bas, le ciel et la terre ont parfois un peu la même couleur, qui peut être très grise, parfois lumineux. C'est assez impressionnant, tout cet aspect. C'est très émouvant comme endroit. Et donc là-bas, il y a des Désirées, il y a des Guys, et en effet, il y a des gens assez simples qui tout d'un coup vont compter beaucoup dans la vie de ce personnage, qui est plutôt quelqu'un de relativement sophistiqué, et tout ambassadeur qu'il est, se retrouve là, par sa perte de repère complète, à part un livre qu'il a amené avec lui, très, très, très nu, très, très seul. Cette relation qui est un peu celle de Quichotte avec Sancho Panza, mais en tout cas, cette relation qu'il peut avoir avec ce chauffeur qui va l'amener dans différents endroits est importante, et il y a une forme de tendresse qui est importante, je crois, dans la... Enfin, en tout cas, pour moi, romancier, j'aime bien qu'à un moment donné, il y a ces éléments-là. Et puis cette femme, en effet, Désirée, qui est la responsable des archives du conseil départemental de la Guyane, qui... à la fois affirme une identité forte guyanaise et en même temps est très, très impressionné par ce personnage qui physiquement est impressionnant. Et donc, ils sont arrivés là, comme ça. Il y a une part considérable de hasard dans l'écriture. Tout d'un coup, il s'appelle Bienvenue parce que j'ai eu envie qu'il y ait quelqu'un qui l'accueille. Voilà. Personne ne l'accueille, personne ne l'attend. Et dans le fond... c'est bien que ça soit quelqu'un de tout simple dont le nom même dit l'aménité, la compassion qu'il peut avoir pour mon héros qui s'appelle Léo Socrates. Socrates étant un mélange à la fois évidemment du philosophe Socrate, mais surtout du footballeur Socrates, qui est un grand footballeur brésilien décédé de beaucoup d'alcool d'ailleurs. Et la première scène, grande scène du livre est une scène d'un match un match fameux pour ceux qui aiment le football, mais il n'y a pas longtemps, la dernière Coupe du Monde de football entre le Brésil et l'Allemagne. L'Allemagne avait écrasé la France. Et donc, ce match Brésil-Allemagne était un match très commenté en Guyane, parce que pour le coup, les Guyanais se sentaient très français. Et en même temps, ça avait été un match terrible pour le Brésil, puisque l'Allemagne avait étrié le Brésil. Et la première scène, c'est ça. On s'est raconté ce match de football. Voilà.
Il y a un autre clin d'œil au foot. Enfin, vous aimez bien le foot.
Oui, parce que j'ai fait mes études à Reims, qui pour les Bordelais est une autre ville de vin, mais une autre ville de football aussi. Et j'ai fait mon baccalauréat sport-études. Donc le matin, je faisais des choses sérieuses. Et l'après-midi, je faisais encore beaucoup plus sérieuses, qui était le football. Et je devais avoir une carrière de professionnel. Et puis finalement, bon, je me suis plus tourné vers Platon que vers les buts. Voilà.
Oui, parce qu'il y a un ancien footballeur un peu enveloppé dans votre roman qui s'appelle Ronaldo.
Oui, qui est une figure très connue là-bas, qui s'appelle Jean-Claude Darcheville, qui est un footballeur qui a été une grande vedette. Il y a des grands footballeurs guyanais dans l'équipe nationale française, mais Darcheville est un personnage très connu, mais qui s'est assez vite enveloppé et qui a ouvert une très grande boîte de nuit là-bas qui s'appelle Wax, qui est décrite dans ce roman. Et où je suis allé voir un peu, en effet, à quoi ça ressemblait. C'est plus qu'intéressant. Voilà.
Et pour continuer avec les personnages, Frédéric Salomon, je me suis demandé si c'était un clin d'œil biblique ou un clin d'œil à Louis de Funès dans Rabbi Jacob, qui dit Mais Salomon, vous êtes juif.
Oui, c'est vrai. En fait, il est... Salomon, pourquoi c'est arrivé comme ça, je ne sais pas. En effet, je n'ai aucune référence à ça. À son judaïsme, jamais, mais même
pense. Il y a une bagarre.
Un petit peu. Oui, il y a une petite bagarre, mais enfin, il est pas, c'est, ça ne le constitue pas. Donc, c'est pas une. Il y a une petite bagarre, en effet, quand ils sont jeunes, dans les années 70. Mais non, je ne sais pas, ça sonne bien, je trouvais ça. Et à la recherche de Frédéric Salomon, ça devait être le titre du livre, d'ailleurs. Voilà. Donc, et en fait. Un de mes camarades de classe s'appelait Salomon et j'ai très impressionné parce que c'était l'année où on apprenait l'histoire du roi Salomon, donc j'avais l'impression que vraiment lui avait plus d'atouts dans la vie que moi, parce que moi je m'appelais Poivre et lui Salomon c'était quand même une autre
Poivre mais un autre d'armoire quand même.
Oui, enfin, à l'époque c'était que Poivre. Donc, voilà.
Et il y a aussi alors le professeur Gagnery qui suit le narrateur depuis son accident et qui le hante.
Alors, oui, alors lui, le professeur Gagnery, c'est important ce que vous me dites, parce que en fait, ce livre commence par, enfin, assez vite par une description d'un personnage qui se regarde dans la glace, en l'occurrence Léo Socrates, qui se trouve vraiment. C'est un passage, si jamais on doit en lire un, on pourrait le lire facilement. Enfin, il trouve quand même qu'il est très abîmé par la vie. Et qui ne marche pas bien, évidemment, tout ça. Et il y a 2 ans, pour la première fois dans ma vie, j'ai eu le sentiment d'une forme de fragilité. Bon, il y a l'âge, certainement, mais il y a aussi le fait que tout d'un coup, j'avais du mal à mes genoux quand j'allais au spectacle. Et donc, je suis allé voir un rhumatologue qui s'appelait Gagnery. Et ce Gagnery est devenu mon meilleur ami. Et donc, ça a duré des séances et des séances, etc., d'infiltration, etc. Et il est vraiment rentré dans ma vie à tel point que pendant vraiment, à chaque fois que j'avais un personnage à imaginer, il s'appelait Gagnery. Et j'avais oublié ça, et quand je suis allé faire ma dernière séance d'injection la semaine dernière, il avait entendu dire, donc il avait acheté le livre, et il était assez content, j'avais peur qu'il ne soit pas content, mais d'être dans le roman.
Voilà. Bah, il peut être content parce qu'il est dans le roman, mais en même temps, plus ça va, moins il est dans le roman. C'est-à-dire qu'il est à la page 10, 19, 30, 61, 183, et la dernière fois qu'on parle de lui, à la page 243, c'est pour dire « Oh, j'ai pas envie de rentrer à Paris et retrouver la mine chafouine de Gagnery ».
Oui, parce que Gagnery, c'est le neurologue, c'est celui qui le traite, et en effet, au début, il est utile, il est indispensable, évidemment. Et peu à peu, le personnage va lui-même reconstituer sa propre mémoire, et donc il va en effet pouvoir se passer de ce médecin-là.
Voilà, comme de la vitamine B1. Au départ, il est très à cheval sur sa vitamine B1.
Et qui disparaît.
Plus ça va, moins il pense à sa vitamine B1. Et puis il y a Hélène. Alors pourquoi Hélène, si on continue sur les personnages ?
Hélène, parce que c'est le cœur de l'histoire, en fait. L'histoire, c'est... l'histoire, s'il fallait la résumer, pourquoi ça s'appelle Amour à Trois, c'est l'histoire en effet d'une professeure de philosophie qui doit avoir 23 ans, c'est sa première année d'enseignement. Et vous savez, moi j'ai moi-même enseigné la philosophie, on a 22 ans et on est à peine plus vieux que le plus âgé de vos étudiants, de vos lycéens, qui est en général à 18 ou 19 ans et qui vous regarde avec un sentiment comme ça de grande proximité. Et donc, Hélène, c'est cette prof de philosophie, telle qu'elle existe d'ailleurs, telle qu'elle a existé en l'occurrence, qui, tout le monde se souvient un peu de sa classe de philo, pour ceux qui sont passés par là. C'est un moment quand même très impressionnant dans la vie, parce que tout d'un coup, on vous demande de réfléchir, d'avoir un esprit critique, de pas nécessairement apprendre par cœur. Vous travaillez des disciplines qui forcément vous touchent, qui sont... la philosophie, donc le questionnement sur l'être, la vie, la mort, tout ce qu'on veut, mais aussi évidemment la psychanalyse. Moi, quand j'ai fait mes études de philo, et en tout cas quand je suis allé en terminale, on parlait presque plus du moi, du surmoi, du ça, de Freud, de Jung et d'autres, que des grands textes de philosophie. Et moi, je suis tombé sur un prof de philo, en l'occurrence, une prof de philo qui faisait de la dynamique de groupe. Alors tout d'un coup, je me souviens, on arrivait en cours, on se mettait par terre, on se tenait la main. C'était assez curieux quand même tout ça. C'était une époque, hein, 70.
68 n'était pas très loin.
Oui, il n'était pas très loin. Quoi. Et donc, et tout ça à un moment de la vie où forcément, à 15, 16, 17 ans, on découvre son propre soi, son corps, sa sexualité, etc. Donc quand tout ça se mêle, ça peut être assez explosif. Et en l'occurrence, Hélène n'a pas complètement maîtrisé tous les codes de l'éducation nationale. Et je vous assure que c'est très fréquent, en fait, notamment avec les jeunes professeurs. Et donc exerce forcément un magistère et impressionne ses élèves. En l'occurrence, deux jeunes garçons, qui sont Léo et Frédéric, qui sont tous les deux extrêmement amoureux de cette femme, parce qu'elle leur enseigne plein de choses et qu'elle va finir par leur enseigner aussi l'amour, puisqu'ils vont vivre ensemble pendant presque un an et demi, après que l'un et l'autre aient passé leur bac, plus ou moins bien pour Frédéric et correctement pour Léo. Et donc, c'est cette histoire d'amour à trois, de relation qui se construit entre cette professeure de philosophie et ces deux étudiants. Et le fait que ça ne marche que parce qu'ils sont trois. Voilà. Et le jour où l'un d'entre eux va partir, tout cet équilibre-là va tomber.
Alors, en fait, sur 250 pages, cette quête ne dure que quelques jours. Il suffit de moins d'une semaine pour rassembler 30 années de souvenirs éparpillés et fragmentaires. Comment vous est née l'idée de transposer cette remontée dans le temps en périple guyanais, en remontée dans l'espace? C'est la rencontre avec la Guyane ou c'est...
Moi, je suis toujours... j'aime beaucoup les romans où il y a une unité de temps, de lieu, d'action, comme ça, court. Ces romans, il y a d'autres choses. Il y a des Bildungs, il y a des romans de formation qui travaillent sur l'apprentissage sur des années, des années, voire des histoires de famille, des générations entières. En même temps, j'aime bien la dimension un peu théâtrale qui peut être présente dans certains romans. C'est-à-dire que c'est le jour où ça se passe, voilà, et ça se passe. Et au début, c'est comme ça, et à la fin, 200, 300 pages ou 400 pages après, tout est bouleversé. Les personnages ne sont plus les mêmes. Il s'est passé quelque chose. Et donc, il faut trouver une scène, la scène d'un drame, d'une comédie en l'occurrence, parce que ça pourrait être un livre dramatique sur « Mon Dieu, on est vieux, on perd sa mémoire, et on recherche le premier amour et tout le monde est mort, etc. » Bon, il y a en même temps un élément de légèreté, de distance, parfois, je crois, d'humour, enfin, même assez souvent.
Oui, c'est drôle, enfin, oui.
Oui, assez drôle, en l'occurrence. Et donc, mais il faut trouver une scène. Et la scène, pour moi, ça a été, dans ma tête, depuis le début, c'était deux scènes qui se, si j'ose dire, qui se renvoyaient l'une à l'autre. En l'occurrence, deux fleuves. La Seine, le fleuve Seine, qui est le théâtre d'un moment très fort entre les deux garçons quand ils avaient 17 ans. Une noyade, une quasi-noyade de Frédéric là. Et puis un autre fleuve. Et le fleuve, c'est important parce que le fleuve, c'est la remontée de la mémoire. C'est dans la mythologie, évidemment, ça a un rôle important. Et l'autre fleuve, c'est le Maroni. Et le Maroni, c'est un fleuve assez impressionnant quand on le prend à partir on le remonte à partir de Saint-Laurent-du-Maroni, l'endroit du bagne, et qu'on va très haut comme ça, dans un périple un peu conradien que j'avais envie de faire. J'avais envie de raconter ça, dans le fond, un personnage perdu dans la jungle, dans la forêt, et remonter jusqu'à Maripasoula, et à l'origine un peu de ce territoire qui sont les Amérindiens, les Indiens Wayana en l'occurrence, qui sont... comme on le sait, au cœur d'un endroit où la recherche de l'or fait que l'utilisation du mercure fait que c'est un peuple qui est vraiment particulièrement menacé sur un plan sanitaire et autres. Donc voilà, d'où cette scène à Guyane, un temps court, un homme qui arrive là pour une mission courte, qui ne va pas l'effectuer parce qu'il va faire sa conférence, enfin ça sera un peu abrégé, et qui tout d'un coup va peu à peu se remémorer la raison de pourquoi il a accepté cette conférence, pourquoi il est là finalement, parce que ce Frédéric Salomon les a quittés, lui et Hélène, professeur de philosophie, il y a 40 ans, parce qu'il en avait marre de la France. Il était très à droite, voire à l'extrême droite, Léo Socrates plutôt genre des années 70, où il y a des grandes oppositions, et il est parti, il a tout plaqué, et il est parti quelque part en Guyane comme instituteur. Et c'est à la recherche de Frédéric Salomon, donc, que Léo, apprenant le décès d'Hélène, la prof de philo, va.
Voilà. Ben vous ne pouviez pas trouver mieux comme cadre que la Guyane. Moi, je n'allais pas plus loin que Maripasoula, mais c'est déjà une expédition. Donc, Paris, Cayenne, Maripasoula, Antecumpata, au cœur de la forêt amazonienne.
Vous n'étiez pas loin, parce qu'en fait, Antecumpata, c'est juste à côté. Hein, c'est vraiment...
plus on s'enfonce, plus c'est compliqué d'accéder.
Ouais.
Et c'est pour ça que Guy Bienvenu, le fameux chauffeur de taxi, finit par être embringué. Il est plus que bienvenu, il est nécessaire.
Il est indispensable.
Il est l'équivalent de la canne que Léo Socrates ne quitte pas. Donc on ne lit pas la fin du roman, parce que sinon ça ne serait pas la peine de le lire. Mais finalement, ante cum pata, Léo Socrates trouvera ce qu'il est venu chercher, même si ça n'est pas Frédéric. Voilà, on ne dit pas plus.
Non. Voilà. Non, non, il faut laisser un peu.
Alors vous parlez de ce premier fleuve, la Seine. Sur ce fleuve, il y avait une île. Alors, je ne sais pas si c'est une île imaginaire ou une île réelle, mais... L'amour à trois, c'est aussi la chronique d'une époque, notamment via la musique. Et j'avais choisi de lire un extrait de ce qu'ils font sur cette île, donc quand ils sont adolescents, tout au début. Donc c'était une île magique dont nous avions pris possession avec Frédéric, tant elle nous paraissait inexplorée, vierge de toute construction, oubliée des promoteurs, urbanistes et autres propriétaires humains, une sorte d'annexe aux territoires imaginaires de l'adolescence, l'île Zarathoustra, du nom que Frédéric avait donné à cette longue bande de terre, habitée d'un seul troupeau de vaches et de quelques familles fécondes de lapins. C'était là que, deux années successives, nous avions, le 24 juin, le jour de la Saint-Jean, organisé avec Frédéric une grande fiesta, une nuit entière, avec feu de Bengale, des acteurs récitant des aphorismes d'Ainsi parlait Zarathoustra, des morceaux entiers d'Aurore ou du Gai Savoir, beaucoup d'alcool, et des enregistrements de musique de Wagner, de Nietzsche lui-même, des sonates, sonatines, Lieder et fragments au piano, Carmen de Bizet, et puis quand la fête était à son apogée, les Pink Floyd, Patti Smith, Led Zeppelin, Frank Zappa et autres tubes de l'époque auxquels se mêlaient des douces volutes de nos cigarettes fourrées d'herbe. Donc c'est vraiment la chronique des années
70. 15.
Donc, Léo et Hélène, par exemple, écoutent aussi John Baez, ou... Je dirais après, mais c'est un roman très documenté. Donc, il y a même les paroles des chansons de John Baez. C'est la bande de son que vous prêtez à votre narrateur ou c'est la vôtre ?
C'est la mienne, en fait. Tous les romanciers ont leur technique, mais moi, à un moment donné, je suis en train de travailler sur un roman là. Et je sais qu'il faut que je trouve une musique. Cette musique peut être juste une musique qui va vous donner. Du cœur au ventre et le courage chaque matin ou chaque soir d'écrire. Après, elle peut rentrer dans le roman. Et en fait, en l'occurrence, vous faites bien d'en parler parce que pour moi, ce livre s'est complètement écrit à travers les chansons de John Baez. J'avais pas écouté ces chansons depuis très très longtemps et en même temps, j'avais adoré vraiment. Et donc, j'ai tout racheté il y a un an et demi. Et j'ai tout écouté tout le temps en permanence. Alors, il y en a qui sont très connus. Il y en a une qui vraiment a été pour moi, je voulais d'ailleurs l'appeler ainsi. Et mon éditeur m'a dit, mon Dieu, c'est pas bien. Mais enfin, bon.
Des
diamants et de la rouille, oui. Je voulais appeler ce livre « Des diamants et de la rouille ». Il s'appelle « Diamonds and Rust ». C'est une très très belle chanson qui raconte un peu l'histoire avec Bob Dylan et où manifestement Bob Dylan la rappelle un jour en lui disant tu sais je t'aime toujours etc. Et là elle lui explique que tout ça évidemment s'est passé et qu'elle a déjà payé pour les diamants voilà et c'est une très belle chanson sur dans le fond le souvenir l'amour la mort de l'amour comment quelque chose passe du diamant à la rouille et c'est très beau et ça vraiment toutes ces chansons là ce côté un peu folk a vraiment irrigué mon écriture et aussi une scène en l'occurrence où Hélène et Léo vont à un concert de John Baez et après ce concert ils vont dîner ensemble et c'est un peu le début de la fin entre eux d'ailleurs et il se trouve en effet que quand j'étais étudiant à Rouen dans une salle qui s'appelait la salle des Cordeliers John Baez était venu. Et j'étais allé à ce concert comme on allait, vraiment, c'était quasi religieux. Mais en fait, on était assez peu nombreux, il devait y avoir 400 personnes à l'époque. C'est pas des phénomènes de foule, ça reste quand même relativement. Et donc voilà, elle est très présente.
Ah oui, la chanson, c'était pas mal comme titre de Diamant. Et...
Oui, vous savez, les éditeurs parfois ont des idées sur les choses, mais heureusement pour eux.
Donc Léo Sage Bachelier à 15 ans se dit gaucho et aime Héraclite, tandis que Frédéric Voyou, majeur et émancipé à 18 ans, c'est juste les années où la majorité a été donnée à 18 ans. Lui, il est facho et il cite Parménide, mais tous deux se retrouvent autour de Nietzsche, on l'a vu sur leur île. Vous êtes philosophe de formation et le roman est nourri de multiples références, alors pas seulement philosophiques, de Woody Allen à René Girard, en passant par Milan Kundera. Là encore, ce sont vos références personnelles.
Oui, je trouve que, en fait, oui, c'est mon panthéon à moi. C'est... En plus de tout ça, on peut faire littérature. Il ne s'agit pas évidemment d'accabler le lecteur par une forme d'érudition, parce que c'est facile d'être érudit à l'époque de Wikipédia ou de la photocopie. Mais non, c'est parce que c'est mon univers. Oui, je pense que tout ça, c'est dans le fond, on se construit à travers des auteurs, de la musique, de plein de choses. Enfin, ça peut être aussi quelques obsessions. Il y a toujours des cafés dans le livre que j'écris. Oui, en l'occurrence, A-t-il Zarathoustra, pour revenir à ce que vous me demandiez, existe. C'est une île qui se trouve en Normandie, dans un petit village qui s'appelle Andé, et où j'ai fait une partie de ma scolarité. Et Andé, c'est un petit village qui est connu parce qu'il y a un moulin dans lequel beaucoup d'intellectuels, Malraux et d'autres sont venus, absolument, tout à fait. Et c'est là où Jules et Jim a été tourné en partie. Et la scène finale, notamment, la scène finale de Jules et Jim, où il y a une scène de bateau, comme ça, de barque. Et donc, quand j'avais 14 ans, j'avais vu ce film qui m'a beaucoup marqué. Et je me suis rendu compte, d'ailleurs, bien après, c'est-à-dire il y a à peine quelques mois, en écrivant ce livre et en l'envoyant à Jeanne Moreau, qu'en fait, ce film m'avait beaucoup marqué. Et que ce film, c'est évidemment L'Amour à Trois, complètement. Mm-hmm. Je n'avais pas du tout fait le lien entre tout ça. Et il y avait une île qui n'est pas de nom sur la carte de l'IGN. Et il se trouve que passionné par Nietzsche, en effet, avec un camarade qui... vous voyez, il y a un élément comme relativement autobiographique dans ce livre. Avec un camarade qui, lui, était...
C'est pas moi qui l'ai dit.
Non, c'est moi qui tout d'un coup, me l'ai laissé entraîner. Un camarade qui était plutôt, en effet, très, très à droite, vraiment, et moi, le contraire. Mais en même temps, il me plaisait. Et avait en effet pour héros philosophique Parménide, c'est-à-dire la constance, le fleuve immobile, etc., l'être, et moi c'était Héraclite, le mouvement, on ne se baigne jamais dans le même fleuve, etc. Et donc on avait fait des petites fêtes là-bas, philosophiques, où on lisait avec plein de jeunes garçons et de jeunes filles de l'époque, et donc on avait appelé cette île Zarathoustra, et on a réussi 15-20 ans après et elle est sur les cartes maintenant, elle s'appelle les Zarathoustra, elle n'a pas de nom, donc on a au moins créé ça, voilà. Il restera quelque chose. Ah, c'est en effet une île où il y a des vaches, et dans Zarathoustra, le personnage interpelle régulièrement les vaches, le troupeau de vaches, etc. Donc c'était une fréquentation assez étonnante et dangereuse, parce qu'en effet, elles passaient leur vie là, donc il y avait dans les hautes herbes de nombreux restes de leur déjection, et c'était toujours c'est comme un champ de mine où il fallait arriver jusqu'au bord de la plage, qui était une plage qui a été constituée de sable renversé par une péniche et où poussaient, au miracle, des plants de tomates. Et c'était pour nous la preuve que cette île était quand même un peu magique. Voilà.
Contourner les bouses pour avoir les tomates.
Voilà.
Alors, vous avez cité Jules et Jim, c'est évidemment le film de Truffaut qui est sorti en 62, c'est évidemment le même thème de L'Amour à Trois. Et dans votre roman, de nombreuses scènes sont très cinématographiques. Je n'ai pas retrouvé à quel endroit. Vous dites même que l'éclairagiste devrait mettre le projecteur à tel endroit pour que les ombres se découpent comme ça. Est-ce que vous verriez d'un bon œil une adaptation au cinéma?
Les auteurs voient sur ça d'un bon œil, parce que ça permet une autre aventure. Mais c'est vrai que, en l'occurrence, vous avez raison, en effet, il y a des... Comme c'est l'histoire d'un traumatisme et d'un refoulement, parce que cette histoire était refoulée, ce personnage, tout d'un coup, 40 ans après, retrouve ce souvenir de ce premier amour, de cette année et demie vécue avec ces deux autres-là. Et forcément, souvenez-vous, il y a 40 ans, il vous reste forcément des images. Vous n'avez pas la continuité du récit. Il vous reste des moments comme ça. Et je ne sais pas pourquoi il reste des images comme ça. Je ne sais pas pourquoi c'est celle-là ou d'autres. Je sais qu'il y a une trentaine d'images qui sont vraiment inscrites, imprimées dans mon cerveau, qui pourraient résumer ma vie et qui peuvent être aussi des mélanges de sensations physiques, d'émotions. Et pourtant, il y en a des milliards qui sont passés par-dessus ou à côté ou entre celles-là. Mais par exemple, en effet, il y a ce que vous décrivez, c'est un moment où un personnage rentre chez lui et il comprend que dans le fond, sa femme, en l'occurrence Hélène, cette prof de philo, est dans sa chambre avec son meilleur ami. Voilà. Et donc tout d'un coup, pour décrire assez pudiquement ça, et ne pas entrer dans la chambre finalement, il est important de savoir bien orienter les projecteurs, et à ce moment-là, des choses simples apparaissent, parfois non-dites d'ailleurs. J'aime bien aussi les non-dits, ce livre se termine un peu de manière comme ça, assez ouverte, tout n'est pas fermé. Et le cinéma permet cette ellipse-là. Le roman est bavard, forcément, mais le cinéma, vous ne dites pas de Mélanie qu'elle est triste, vous dites elle pleure, voilà. Bon, et donc j'aime bien ça, en effet, d'appliquer ces recettes-là, à la fois celle du théâtre pour la scène et celle du cinéma pour l'éclairage.
Alors, L'Amour à trois, c'est un roman à clé, il y a plein de portes et des vraies serrures, enfin très littérales. C'est un bonheur de sémiologue, vous citez Barthes. Ouais. Et c'est vrai que c'est très cinématographique parce que ces serrures, c'est par exemple la découpe des falaises d'Etretat, par laquelle il voit aussi son... un couple.
Trahison.
On ne sait pas du tout si c'est Hélène et son ami, mais en tout cas, on voit un couple faire l'amour. Et là, il a une espèce de révélation, mais vous avez raison, il ne veut pas savoir, donc il ne le raconte pas puisqu'il ne le sait pas. Donc, si l'amour à trois était une fable, est-ce qu'il y aurait une morale?
En fait, ça ne pourrait pas être une fable parce que... d'abord parce qu'il n'y a pas de morale, justement. Il n'y a pas de morale. Il y a la réalité, comme ça, quand on se retourne un peu étourdissante du fait que ce qui peut paraître étrange, interdit, tabou, voire malsain, à savoir l'amour d'une femme qui a 22 ans pour deux de ses élèves, tout d'un coup, si c'était jugé, et à l'époque, ça avait été jugé, vous savez, cette affaire célèbre, je cherche le nom d'ailleurs, de Gabriel, voilà. Il y a ce moment extraordinaire, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu, où Pompidou, on l'interroge sur cette affaire-là, il faut regarder ça, c'est dans les archives de l'INA, et on interroge Pompidou, qui est président de la République à l'époque, ou Premier ministre, je ne sais plus. On l'interroge sur cette affaire-là, et il prend, je crois, 40 secondes avant de répondre, et puis il cite un long vers d'Aragon, je ne sais plus, non, d'Éluard, peut-être.
D'Éluard, je crois.
Et donc, voilà, donc, aux yeux de la justice, en l'occurrence, ces jeunes-là sont mineurs, donc ça serait jugé et condamnable, mais ça existe, voilà, et donc ça ne peut pas être une fable. Ça ne peut être qu'à un moment assez déchirant et un mauvais début, en tout cas pour un personnage, commencer une histoire d'amour comme ça, aussi fortement, violemment, qui l'amène à aimer une femme qui va le quitter, d'une certaine manière, puisqu'elle va lui dire de partir à un moment donné quand Frédéric Salomon va partir, lui, en Guyane. Et l'amour qu'il a pour cette femme, et en même temps l'amour qu'il a pour son camarade, qui n'est pas un amour consommé d'ailleurs, mais qui a une grande fascination entre deux garçons. Et bon, c'est un peu comme les maisons japonaises, tout ça est assez fragile. Voilà, on ouvre, on ferme, et ça peut se disposer d'une manière ou d'une autre et proposer des situations relativement différentes.
Alors, je voudrais ajouter que c'est un roman extrêmement documenté. Vous avez dit tout à l'heure qu'avec Wikipédia, tout le monde peut faire des fiches et documenter un roman, mais je pense que c'est de la documentation de première main. Donc c'est extrêmement documenté sur l'AVC, symptômes et traitements, sur le corps diplomatique, ses membres, ses hiérarchies, sur la Guyane, sans complaisance, avec ses ethnies, ses boîtes de nuit, mais avec par exemple la marque du meilleur anti-moustique, le OFF. Et c'est là aussi, vous ne l'avez pas inventé, ça s'appelle vraiment du OFF, mais...
Bon, mais... tant mieux. Non, vaut mieux ça que de se tromper, en effet.
Oui, non, mais c'est c'est aussi amusant parce que c'est off, enfin bon, ce qui peut être encore un clin d'œil de votre part, mais une précieuse information pour ceux qui voudraient partir en Guyane. Il y a une énorme documentation aussi sur la mémoire, décrite par les auteurs grecs, par les cliniciens ou par ce patient qui est Léo Socrates et qui nous donne ses symptômes vraiment... ce narrateur qui se reconstruit au fil du récit qu'il construit, puisque c'est lui qui écrit et qui, à tous les sens du mot, il rame hein, pour écrire, écrire ce récit. Et voilà, et enfin, je recommanderais juste aux libraires sensibles de ne pas lire les pages 142 et 143, puisque le narrateur explique comment voler les livres dans une librairie.
Ah oui.
Avec un cadenas à roulettes, des salades et un couteau suisse.
À l'époque, c'était possible parce qu'il n'y avait pas ces petites choses qui sonnent, qui font du bruit quand on sortait.
D'où le couteau suisse pour faire.
Oui, enlever les petites. Un petit fil.
Et enfin, je recommanderais aux lecteurs impatients, certains commencent par la fin. Il ne faut pas commencer par la fin parce que dans L'amour à trois, il y a plein de rebondissements, mais il y en a un ultime et un quatrième personnage. Mais bon, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une autre histoire qui commence. C'est une fin ouverte.
Oui, c'est une fin ouverte. C'est intéressant de partir, en tout cas, d'un personnage qui lui-même ne sait pas très bien qui il est, où il est. Donc, forcément, le livre commence dans une sorte d'épais brouillard, avec des scènes qui se passent, en effet, dans cette espèce de boîte de nuit où il y a ce match qui est retransmis. Et puis, peu à peu, les choses s'éclaircissent et il y a une grande clairière, une grande éclaircie qui mène finalement, dans le fond, à quelque chose qui est assez joyeux, puisqu'on va découvrir, en effet, bon, Hélène, on le sait, est décédée. C'est ça qui a provoqué, en partie d'ailleurs, l'AVC du personnage. Elle est décédée à Rouen, donc il est allé à son enterrement, et puis donc il va à la recherche de Frédéric Salomon, dont on verra ce qu'il est devenu. Et puis au bout de tout ça, il y a le secret de l'amour, qui est une chose importante, qui est assez reliée pour le coup à un livre précédent qui s'appelait « Le jour où j'ai rencontré ma fille », qui raconte en effet la stérilité, l'adoption, etc. Et donc, et quant au travail, oui, enfin pour moi, l'expérience du romancier, elle est dans le... oui, on ne peut pas faire ça n'importe comment. Alors après, plein de gens écrivent comme ils le souhaitent. Moi, je suis un peu... J'étais assez proche de Julien Gracq, que je voyais souvent, et qui me disait toujours, soit les écrivains, soit ils racontent l'histoire, soit la géographie. Alors lui, c'était la géographie, il était professeur de géographie. Donc j'ai une grande passion pour la description des paysages, des fleuves. Mais c'est très intéressant de décrire un fleuve, voilà. C'est vraiment un bel exercice. Je ne sais pas dessiner ni peindre, mais par contre, j'ai une relative... en tout cas, j'ai du plaisir à faire cet exercice-là. Et l'écriture, c'est aussi un voyage en... Voilà, il faut prendre son temps, il faut aller travailler les choses, les sujets, il faut être obsessionnel, il faut avoir 4-5 sujets comme ça, et puis les rapprocher. Ils ne sont pas faits au départ pour ça. Hein. La Guyane n'était pas faite pour raconter une histoire de ce type-là. Et on écrit bien quand on connaît bien. En effet, en l'occurrence, je décris... parfois, c'est prémonitoire, parce que je décris le sort d'un diplomate qui va se retrouver dans ce qu'on appelle l'allée d'Ici-près, c'est-à-dire là où on met les ambassadeurs, on ne sait pas quoi faire. Et j'ai écrit ça au début de l'année dernière, enfin en janvier dernier. Et en fait, dans le fond, hier, j'ai pris possession de mon bureau dans cette allée d'Ici-près au ministère des Affaires étrangères, parce que j'ai dû quitter pour des raisons un peu précipitées mes fonctions à France Culture. Et donc, voilà, mais je savais à peu près à quoi ça ressemblait. Donc, on a... comme ça, quelques sujets sur lesquels on peut vraiment, non pas épater le lecteur, mais en tout cas l'informer et lui donner le sentiment qu'il est vraiment là, à l'endroit où ça se passe.
En tout cas, je ne sais pas si la Guyane n'est pas faite pour ça, mais c'est une parfaite métaphore de cette remontée dans le temps. Enfin, c'est une trouvaille, c'est un super ressort.
Je crois, oui, je crois, et je crois aussi qu'il faut toujours citer ce à quoi on est redevable. Quand on commence un livre, on ne sait pas très très bien, on espère qu'on va y arriver, en général on y arrive, mais ce n'est pas toujours garanti. Et là, en l'occurrence, j'avais très peu d'éléments, j'avais pas de documentation, j'avais un vague guide de Guyane, parce que j'étais allé plusieurs fois, donc un guide qui me restait de mes... Puis j'ai une amie guyanaise qui est écrivain. Donc, mais j'avais vraiment quasiment rien sur mon bureau. J'avais ici une grosse thèse de Christiane Taubira sur, la question aurifère, justement, et le mercure, voilà. Mais très, très peu de choses. Et puis, un livre est arrivé qui était important. C'est un livre de Raymond Maufray, qui s'appelle « L'aventure en Guyane ». Et Raymond Maufray, c'est... J'avais pas entendu parler d'histoire, et c'est un jeune garçon, une sorte de Rimbaud des années 50, qui passionnait, qui est, je crois, étudiant en archéologie, ou, je me trompe peut-être là, va en Guyane une première fois et est fasciné, et à l'époque 50, la forêt est déjà si prégnante, mais enfin là, à l'époque, elle était encore plus, c'était très difficile, décide d'aller vraiment dans la forêt pour remonter, pour retrouver un certain nombre de sites jusqu'au Brésil. Il écrit un premier livre qui sort chez Plon, qui a un grand succès à l'époque, et puis il décide d'y retourner une seconde fois, et là, il va faire un voyage sans retour. Et il écrit un journal qui sortit sous le nom d'Aventure en Guyane. Et ce journal est retrouvé au bout de quelques semaines après sa disparition sous un carbet, c'est-à-dire une sorte de petite habitation d'Indien. Et là, bon, se termine sa vie très jeune, 23-24 ans. Ce journal est bouleversant parce qu'il raconte comment, avec son chien, il traverse peu à peu, il finit par manger son chien. Enfin, tout ça est très tragique. On ne comprend pas pourquoi il veut marcher comme ça, marcher, 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 mais il va au bout de lui-même. Mais une seconde histoire commence, c'est l'histoire de son père, parce que, et là on a beaucoup parlé à l'époque, son père qui n'a pas beaucoup d'argent, pendant 10 ans va se ruiner complètement pour retrouver son fils, en allant chanter des chansons dans la forêt, pour des chansons que son fils avait chantées, pour essayer de le retrouver, et pendant 10 ans va vraiment essayer de le retrouver. Et mon frère a complètement disparu. Voilà. Et il se trouve, c'est assez étrange, d'ailleurs, moi j'ai redécouvert ce livre qui est ressorti il y a peu de temps, et je crois qu'il y a un film qui va sortir dans quelques semaines sur les écrans, je ne connais pas ni son réalisateur ni le nom, mais qui va raconter cette histoire, l'histoire de ce garçon dans la forêt, et auquel Léo Socrates emprunte pas mal de choses, puisqu'il essaie de lire le livre, mais qu'à chaque fois qu'il a commencé 2 chapitres, et malheureusement, en raison de son problème d'amnésie antérograde, il est obligé de repartir à zéro pour se souvenir du début de ce qu'il avait lu. Voilà. Donc un jour, il va le lire d'une seule traite.
En même temps, c'est un vrai contrepoint, parce que Raymond Maufray est un aventurier, un voyageur qui ne voyage pas du tout dans les mêmes conditions.
Non, que bien sûr. Bien sûr, non, bien sûr, en effet, là, on a affaire à un personnage relativement installé dans la vie. Hein, mais bon, c'est un diplomate quand même un peu décavé, un peu... voilà, vraiment sur le fil. Ils sont pas tous comme ça, je peux vous dire, pour les fréquenter, mes collègues ambassadeurs sont quand même plus convenus que ce Léo Socrates. Voilà, beaucoup plus convenus.
Mais on ne sait pas s'il est aussi déliqué sans que ça. C'est aussi le regard qu'il porte sur lui. Il est vraiment pas tendre avec lui.
Enfin, non, il n'est pas tendre avec lui parce qu'en effet, il a... Oui, il est pas tendre. Vous avez raison, oui. En fait, il est... oui, mais ils se sont détruits. On peut assez facilement. Moi, je vous donne l'exemple des genoux, par exemple. Tout d'un coup, vous vous dites. Puis en plus, quand votre rhumatologue vous dit ah, bah, ça peut être psy, parce que finalement, on a un problème avec les genoux le jour où on ne sait plus où aller. Tout d'un coup, vous réfléchissez, alors vous vous mettez à douter. Bon, après, il y a des gens très bien qui vous soignent. Hein. Mais on peut facilement. En se regardant dans la glace, on voit en tout cas le travail du temps, hein, pas uniquement sur les mains, mais on voit le travail du temps sur son corps et c'est toujours assez impressionnant.
Mais je pense quand même qu'il a la dent dure avec lui-même parce qu'il a une écriture très élégante, il n'a pas la canne du pharmacien Sécurité sociale, mais une très jolie canne, il est très élégant.
Oui, c'est élégant, c'est assez beau, il a une certaine allure, mais en même temps, il voit bien quand même que... Comme disait l'autre, et ma grand-mère répétait toujours cette phrase, la vie est un naufrage. Donc, il pense vraiment ça, que la vie est une forme de naufrage assez beau. Après, moi, ce qui est important, je trouve, c'est de convoquer les orchestres et, voilà, et d'être vraiment sur le Titanic, quitte à naufrager. Mais la vie n'est pas complètement une assomption pour Léo Socrates, en l'occurrence. puisque entre temps, il se trouve qu'aussi que ça, et comme il a beaucoup bu, sa femme est plus ou moins partie. Enfin, donc, il a quand même perdu pas mal de choses dans la bataille de la vie et des années. Mais en effet, vous dites à la fin du roman, voilà, quelque chose va le ramener vraiment à la jeunesse et à la vie. Donc, c'est un peu le message, pas. Absolument.
Mais on peut quand même juste lire la fin, parce que le scoop n'arrive pas complètement à la fin. Vous citez Héraclite, qui dit « Ceux qui recherchent de l'or remuent beaucoup de terre et trouvent peu de métal. »
Oui.
Il y a quand même...
un fragment d'Héraclite, oui, voilà. En effet. Et lui a cherché beaucoup de... à chercher beaucoup d'or, mais c'est ce qui se passe d'ailleurs sur les rives du fleuve Maroni en Guyane, et c'est pour ça que c'est si dangereux, c'est que pour trouver quelques particules d'or, on se sert de beaucoup de mercure, et le mercure a des effets terribles sur l'être humain.
Donc c'est tout un roman où il cherche à se retrouver, mais à la fin il dit j'ai suffisamment orpaillé me concernant, et ce qu'il a récupéré lui suffit. Et c'est une autre histoire.
Merci de votre lecture, en tout cas.
Merci.
Merci beaucoup. Donc, vous voulez que je vous fasse une petite lecture, comme ça ?
Avec plaisir.
Forcément.
Non, pas.
Non, une petite scène sur le Maroni. Ouais. Le jour se lève à peine comme au début d'un nouveau monde. Il fait très chaud, étrangement sec pour la saison. Le ciel s'éclaircit peu à peu, mais on voit l'effort valeureux du soleil pour percer la toile de l'horizon et le combat qu'il mène, incertain, contre de grosses taches noires qui naissent et croissent avec l'aube, menaçant le point d'aurore, saturant l'atmosphère d'une lumière sombre et brumeuse. Le rideau de scène de la nuit est remonté, la pluie, les nuages se lèvent en même temps que l'astre, la météo sera théâtrale en plusieurs actes, le cyclo est installé. Je peux enfin sortir de ma chambre, échapper au lit peu confortable de la mémoire. Je n'ai fait que trop dormir hier, attendre trop longtemps de Guy la confirmation de la pirogue pour ce matin. Je peux m'élancer, léger comme neuf, quitter la coulisse, occuper le plateau, m'habiller à la va-vite, boire avec bienvenue une tasse de café réchauffée par la fille de Madame Dédé. Un minibus hors d'âge qui brinque-balle au milieu des ornières et de la boue nous transporte au bord du fleuve, à l'embarcadère, un ponton en bois qui sert au chargement de marchandises. Un homme avec de longues dreadlocks et une casquette Budweiser, un Bushinengue de l'ethnie majoritaire de Papaichtong, se propose de nous conduire en pirogue jusqu'à ma destination. Authentique descendant d'esclaves africains, échappé d'une plantation de la colonie batave du Suriname, il se considère chez lui et connaît, m'assure-t-il, chaque recoin du fleuve, chaque ramification, chacun de ses caprices, chaque dégrade sur les 500 km d'ici à Saint-Laurent et à l'océan. Nous n'irons pas, m'explique-t-il, dans cette direction, mais plus au sud, vers Antekumpata, vers les rapides, là où le brouillard collé à la surface du fleuve complique parfois la navigation. Ça sera donc assez cher, rapporté au risque, au rapide, mais je ne négocie rien malgré l'insistance de bienvenue, car ce voyage pour moi n'a pas de prix. Le Lawa Maroni, tel est son nom à cet endroit, est particulièrement imprévisible entre les saisons. Beaucoup plus, m'assure le piroguier, que le Yapok ou le Mana, pourtant réputé dangereux. Début juillet, normalement, s'achève la grande saison des pluies qui va d'avril à juillet, mais El Niño a dû passer dans la région car la saison sèche qui suit un peu plus tard paraît cette année-là déjà avoir commencé. Oui, l'étiage est vraiment déconcertant, les eaux ont fortement monté mais refluent en certains endroits. Il faut donc se méfier de tout, de ce qu'on devine, de ce que l'on ne voit pas, surtout sans parler de la turbidité et de l'opacité du fleuve, de tous ces sédiments arrachés au lit des rivières par les orpailleurs. Un instant, je vois Bienvenue se raidir, hésiter à poursuivre le voyage, à s'embarquer avec moi dans cette aventure, mais je propose donc de rester en ville, je ne veux pas le forcer, mais l'orgueil du Cayennais prend le dessus sur la crainte légitime d'un terrien qui ne sait probablement pas nager. Rien n'a rétorqué à Bienvenue, juste à lui taper sur l'épaule et afficher le grand sourire de connaissance qu'il fait fondre en une seconde. Nous montons donc dans une longue embarcation, très effilée, une bonne quinzaine de mètres, équipée d'un moteur de 65 chevaux. Pour nous rassurer sur le voyage, le Bushinengue nous désigne au fond de la pirogue une glacière, un bidon d'eau potable, un hamac, une moustiquaire déjà imprégnée d'antimoustiques, de bonnes réserves de carburant et d'huile, sans parler d'une bouteille de rhum qu'il a sérieusement entamée malgré un réveil matinal. 3 heures, dit-il, pour aller à Antekumpata, peut-être plus, peut-être moins, selon les courants, les sauts, les bancs de sable, les rochers, les rencontres. Je lui réponds, qu'importe, ce n'est pas grave. Cela peut durer une heure ou deux de plus, même une journée. S'il fallait bivouaquer à cause du passage des rapides, Je veux seulement arriver sain et sauf. Je n'ai jamais été aussi près d'un but dont j'ignorais encore l'existence il y a quelques heures. Cela fait 40 ans que j'attends ce moment avec impatience, joie et anxiété en même temps.
Voilà. Merci. Eh bien, merci pour cette rencontre.
Merci à vous. Merci de votre lecture.